Europe 1.
heures-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, nous voici réunis pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre, cette émission où la fantaisie côtoie la rigueur et grâce à laquelle l'histoire devient aussi appétissante qu'un bonbon. Et les bonbons, Stéphane les aime.
Bien crémeux, hein.
Bien sûr, bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Chaque après-midi, c'est vrai, on s'amuse, on joue avec l'histoire. Autour de trois personnages très différents qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont à chaque fois un point commun. Aujourd'hui, ils sont d'accord avec l'expression « les plus courtes sont les meilleures ». Puisqu'on réunit des auteurs d'histoires courtes, des novellistes qui ont marqué l'histoire. À commencer par Marguerite de Navarre, qu'on surnommait la perle des Valois, et qui a influencé la politique de son frère, François Ier. Mais elle a préféré les écrits aux édits et laissé une œuvre de 72 nouvelles restées inachevées. Puis, si dans ses livres noirs les nouvelles n'étaient pas toujours bonnes, les siennes, les nouvelles, l'étaient assurément. Je vous raconte le destin fou de l'un des pères de la littérature fantastique américaine, Edgar Allan Poe. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait de celui qui est, vous l'avouez, l'un de vos écrivains vivants préférés.
Oui, bon, ça n'a rien de très original, Stéphane, mais je dois dire que sa plume me fascine. En tout bien, tout honneur, il s'agit d'un as des histoires courtes, lui aussi. Je vous brosserai le portrait de Sylvain Tesson, l'écrivain aventurier dont la stégophilie a bien failli le perdre. Mais qu'est-ce que la stégophilie ? Un indice, c'est un des rares vices que Stéphane n'a pas.
Et avec nous, comme chaque jour, eh bien, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors écoutez, oui, écrire des nouvelles, c'est bien gentil, mais après, comment fait-on pour les transmettre ? Alors moi, je me suis intéressée à cette question du cursus publicus, le service de poste créé par Auguste au télégraphe Chappe, en passant par les fiéfés coureurs du Moyen-Âge, de l'art de transmettre les nouvelles le plus vite possible.
Et puis, David Cassel-Lopez est avec nous. Il remonte aux origines d'une invention.
Oui, je ne sais pas si quelqu'un en a autour de la table.
Sinon, je ne te verrai pas, mon vieux.
Les lentilles de contact.
Oui,
vous êtes un myope de grande qualité.
Oh, je suis myope d'un œil, astigmate et presbyte de l'autre.
Oh, les
j'ai
trois
la
à la
totale.
Fois.
Je connais tous les défauts qu'un œil peut avoir.
Le mythe s'effondre. Hein. Oui. Bon, comment faisiez-vous pour jouer au basket alors
avec les lentilles.
Voilà, donc les origines des lentilles de contact.
C'est hyper vieux, je pense.
Et puis on va voyager gustativement, je s'entends, avec Olivier Pouls, n'est-ce pas ?
Je vais vous parler du tataki. Vous savez ce que c'est ? C'est pas un sport de combat.
Non, c'est japonais, non ?
C'est japonais. Mais alors, c'est japonais, oui, mais il y a une petite influence. Et je me tourne vers mon ami David Castello-Lopez.
Portugaise.
Il y a peut-être une petite influence portugaise derrière cette préparation japonaise.
Quand on pense sport de combat, on ne pense pas Portugal en premier. Donc
c'est pas un sport de combat, recette.
C'est pas un tatami.
Tataki sur tatami.
Tataki de thon, tataki de saumon.
Délicieuse recette. Je vous expliquerai comment on peut la faire aussi.
Enfin, les amis, si en humour les plus courtes sont les meilleures, il faut reconnaître que le concept du running gag a aussi son charme. Aux alentours de 5h10, nous jouons. Comme d'habitude à Burn to be Alive et comme d'habitude, il est peu probable que Stéphane l'emporte. Mais d'abord, nous découvrons d'abord notre premier personnage qui donnait ses nouvelles. Stéphane Bern nous raconte la reine qui aimait écrire, Marguerite de Navarre.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Calliope, Clio, Erato, Euterpe, Melponème, Polymnie, Terpsichore, Thalia et Marguerite de Navarre. Dans cette liste de noms aux sonorités antiques, la dernière résonne comme un intrus. Si la mythologie grecque ne compte que 9 muses, vous savez, ces sœurs qui représentent les arts libéraux, la Renaissance en a ajouté une 10e en la personne de Marguerite de Navarre, surnommée par ses contemporains la 10e des muses. Reine consort du royaume de Navarre, la sœur de François Ier, et avant tout une femme de lettres connue pour l'Heptaméron, un recueil inachevé de 72 nouvelles. 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique et sans lien de cause à effet, Louise de Savoie, les joies de la maternité en accouchant d'une fille, Marguerite d'Angoulême, fille de Charles de Valois, comte d'Angoulême. Attention, une précision s'impose toutefois. Je vous parle aujourd'hui de la grand-mère d'Henri IV, Marguerite de Navarre, et non pas de sa première épouse, Marguerite de France, surnommée la reine Margot. Maintenant que les choses sont claires, retournons à l'aube de la Renaissance avec cette jeune princesse que sa mère décide donc d'appeler Marguerite, du latin Margarita, qui n'a rien à voir avec le cocktail, et qui signifie perle. Pourquoi ? Parce qu'elle en aurait avalé une en mangeant des huîtres lors de sa grossesse. Une légende appréciée des poètes qui font de Marguerite la perle des Valois. Ce doux surnom lui sied à merveille, car en grandissant, la jeune femme se révèle d'une beauté sans pareille. Le poète Clément Marot la qualifie de corps féminin, cœur d'homme et tête d'ange. Grande, élancée, le nez fin et long, le regard enjôleur et le sourire mignon, Marguerite éblouit ses contemporains, et pas que. Son physique gracieux a été immortalisé pour l'éternité par le peintre Jean Clouet, qui a ajouté sur son portrait un oiseau posé sur la main droite de la demoiselle. Mais pas n'importe quel piaf, non, une perruche verte, symbole de l'éloquence. L'art de la parole, Marguerite le maîtrise en effet à la perfection et dans bien des langues. À 13 ans, elle parle l'italien et l'espagnol et connaît le grec, le latin et l'hébreu. Cette éducation ultra soignée, elle la reçoit aux côtés de son frère François, de 2 ans son cadet. Son père, le comte d'Angoulême, mourant prématurément, sa mère, Louise de Savoie, se retrouve veuve à 19 ans. Louis d'Orléans, tuteur officiel des 2 enfants et futur roi Louis XII, les convie à Chinon, où elle élève ses enfants, puis la famille déménage au château d'Amboise. Intellectuelle avant l'heure, elle a pour devise « Libris et liberis » pour mes livres et pour mes enfants, et transmet à la petite Marguerite sa passion pour les lettres. Mais pour l'heure vient le temps des alliances matrimoniales. Il faut bien assumer les obligations de son rang. En 1509, après avoir dû refuser sa main à des prétendants prestigieux, mais de maisons étrangères comme le prince de Galles, le duc d'York, le roi d'Angleterre Henri VIII, avec quelle chance, ou encore le prince de Calabre, Marguerite devient duchesse d'Alençon par son mariage avec Charles d'Alençon. 5 ans plus tard, son frère épouse quant à lui Claude de France, la fille du roi, et se rapproche ainsi très près du trône. Quand Louis XII meurt, sans descendance masculine, c'est lui qui devient roi sous le nom de François Ier en 1515. Son avènement permet à Marguerite d'occuper une place de la plus haute importance à la cour et la propulse sur le devant de la scène politique. Marguerite et Charles d'Alençon n'ont pas grand-chose en commun. Leur mariage n'est pas heureux. Il paraît même que son mari aurait abandonné François Ier à la défaite de Pavie lors des guerres d'Italie en 1525. La honte. Mais leur union s'achève cette même année avec la mort prématurée de Charles d'Alençon. Pendant la captivité de son frère, Marguerite prend ses responsabilités auprès de sa mère promue régente. Courageuse et intrépide, elle chevauche jusqu'en Espagne pour rendre visite à son frère, très malade, dans sa prison madrilène. Elle est venue, elle l'a vu, mais elle n'a pas vaincu Charles Quint, qui refuse de le faire sortir malgré cette tentative de négociation. Le roi de France sera finalement libéré quelques mois plus tard après avoir signé un traité un peu humiliant, lequel stipule notamment qu'il doit laisser ses 2 fils en otage en Espagne. Mais revenons à Marguerite qui, en janvier 1527, épouse en seconde noce Henri d'Albret, roi de Navarre. Elle devient ainsi reine consort du royaume de Navarre. Ce bel âtre de 10 ans, son cadet, elle le décrit comme un bel homme jouisseur et hardi. S'il s'agit d'un mariage d'amour, rien ne permet de l'assurer, mais c'est au moins un mariage consenti et un mariage heureux. De leur union naît une fille, Jeanne, en novembre 1528. Tout en restant fidèle à la foi catholique, Marguerite de Navarre s'ouvre à la réforme et s'intéresse de près aux idées humanistes. Mécène et protectrice des arts, elle s'entoure de gens de lettres et de grands intellectuels comme Clément Marot, Lefèvre d'Étaples, Guillaume Brissonnet. Son ouverture d'esprit bouleverse le destin de ses enfants et rien de moins que l'histoire de France. Car sa fille, Jeanne d'Albret, se convertit ouvertement au protestantisme et élève elle-même son fils dans la foi protestante. Un fils qui n'est autre qu'Henri de Navarre, notre futur Henri IV. Les guerres de religion ne sont pas loin. Bientôt, de la politique, Marguerite de Navarre n'en fera presque plus, se consacrant exclusivement à sa passion pour l'écriture. Alors que les premières querelles religieuses éclatent dans les années 1530, Marguerite de Navarre se retire dans ses terres, dans son château de Pau, de Mont-de-Marsan et de Nérac. Pendant que son mari se résigne difficilement à ne régner que sur la basse Navarre et rêve d'une reconquête de la partie espagnole, elle se consacre entièrement à l'écriture, s'adonnant tant à la poésie qu'au théâtre. En 1542, elle débute la rédaction de courts textes en prose, en s'inspirant fortement du célèbre Décaméron de Boccace, ses 100 nouvelles écrites au XIVe siècle par le poète italien. Elle n'en écrit que 72, laissant son œuvre inachevée pour cause de décès. Son éditeur choisira de donner au recueil le titre d'Heptaméron. Hepta signifie 7 en grec et héméra, jour. Car chaque jour, pendant 10 jours, 10 voyageurs se racontent 10 histoires. Ils sont bloqués dans une abbaye suite à la crue d'une rivière et tentent ainsi de tromper l'ennui. Marguerite de Navarre signe là une œuvre riche et originale, car les voyageurs ne se racontent pas des histoires banales et sans intérêt. Bien au contraire, les voilà qui débattent en réalité de thèmes érudits comme l'amour conjugal, l'orientation morale et spirituelle et même des droits des femmes. En 1547, la nouvelliste apprend la mort de son frère tant aimé, François Ier, et se retire au monastère de Tusson, en actuelle Charente. Inconsolable, elle trouve refuge dans l'écriture et exprime sa douleur en vers dans la comédie sur le trépas du roi. Elle n'en oublie pas de manier les mots à merveille et de jouer avec les identités des personnages. Pan, François Ier, sera donc le maître perdu de la bergère amarissime elle-même. Le berger Agapi, Henri II, partage sa douleur extrême auprès d'eux, sécurise Henri d'Albret, modère leur transport, paraît le souverain consolateur, Paraclésis, le Saint-Esprit. L'année suivante, Marguerite de Navarre assiste au mariage de sa fille, Jeanne d'Albret, avec Antoine de Bourbon et le raconte dans la 66e nouvelle de son Heptaméron. Elle s'éteint quelques mois plus tard, en décembre 1549, ignorant alors que son petit-fils montera sur le trône sous le nom d'Henri IV. Fichtre. Ça aurait fait une bien bonne nouvelle.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Marguerite de Navarre, Stéphane, nous avons le plaisir d'accueillir celle qui lui consacre une riche biographie, Patricia Eschel-Loschkin. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Bonjour Patricia Eschel-Loschkin. Vous êtes professeure à l'Université du Mans, spécialisée en littérature française du XVIe siècle, et vous venez tout juste de publier Marguerite de Navarre, Perle de la Renaissance, aux éditions Perrin. La Perle, c'est une légende, évidemment, qui l'a affublée de ce surnom. Sa mère en aurait avalé une. Vous y croyez, vous, à cette légende ou...
Ce sont des légendes qu'on bâtit après coup. À vrai dire, Marguerite est un prénom princier qu'on donnait aux jeunes filles donc, de la dynastie des Valois. Après elle, il y en aura encore une, Marguerite, donc,
Marguerite de Berry. De France,
et voilà, puis Marguerite de France, la reine Margot. Et ses deux grands-mères s'appelaient Marguerite. Marguerite de Rohan et Marguerite de Bourbon, tout simplement. Bon, en plus, Margherita, ça veut dire la perle.
Oui.
Voilà.
Mais quoi qu'il en soit, comme une perle, Marguerite de Navarre semble assez unique dans l'histoire de France, tout autant que son destin, non ?
Elle est tout à fait unique. C'est une femme humaniste. Elle était plus cultivée que François Ier et les contemporains ne s'y sont pas trompés. Les diplomates venaient systématiquement la voir à la cour quand elle y était, pour son influence politique, pour le plaisir de sa conversation. Elle était aussi belle et mondaine qu'intelligente et avec l'esprit affûté.
Lorsque son frère devient François Ier, Marguerite de Navarre devient Madame la Sœur du Roi. Qu'est-ce qu'elle fait de cette position ? Comment elle utilise son rôle, son nouveau rôle important à la cour ?
Alors Marguerite est une chrétienne fervente qui croit aux idées nouvelles. Ces idées nouvelles venues d'Allemagne avec Luther, mais aussi qui éclosent en France autour du groupe de Meaux, autour de l'évêque Brissonnet, de Jacques Lefebvre d'Étaples, qui demandent à ce qu'on traduise la Bible en français. Les chrétiens n'ont pas accès à la Bible dans leur langue à ce moment-là, qu'on fasse des prédications en français. Et tout ça est vu comme hérétique par l'Église. Donc elle met tout son pouvoir dans la balance pour favoriser ce mouvement. Et ça va fonctionner jusqu'en 1535, jusqu'à l'affaire des placards, où là, il s'agit d'une provocation protestante, des affiches placardées jusque sur la chambre du roi, des affiches contre la messe, qui vont amener le roi à considérer que c'est la réforme est non pas une nouvelle idée, mais une sédition contre le pouvoir royal.
Rapidement, on se rend compte quand même dans la vie de Marguerite de Navarre qu'elle préfère la littérature à la politique. Dans votre livre, vous écrivez qu'elle a contribué à faire de la cour de France un lieu où les intellectuels se pressent. Finalement, est-ce qu'elle a réussi à concilier politique et littérature ?
Oui, on peut dire ça. Le combat de sa vie, c'est effectivement l'évangélisme. Donc, elle a protégé des imprimeurs, des traducteurs, des écrivains, des poètes, des artistes de toutes sortes qui adhéraient aux mêmes idées et qui avaient vraiment besoin de sa protection, de se réfugier sous son aile pour fuir les persécutions. Alors, c'est le cas de Clément Marot, que vous avez cité dans le récit. Elle l'accueille à Nérac. Elle-même n'est plus bien vue à la cour, elle n'est plus persona grata, elle doit se réfugier dans ses terres, et elle protège Marot, et elle va l'envoyer à Ferrare, auprès de René de Ferrare, sa cousine, parce qu'il n'est plus en sécurité en France. Voilà un exemple.
Alors, Marguerite de Navarre, sœur du roi, femme de lettres de la Renaissance, on l'a dit, est l'auteur notamment d'un recueil de nouvelles resté inachevé, l'Heptaméron. De son vivant, est-ce que ses écrits sont très remarqués ? Est-ce qu'elle pèse dans le game, comme diraient les jeunes ?
Alors, plusieurs choses. D'abord, elle a très peu publié. Ses écrits circulaient d'abord de manière manuscrite et elle n'a publié que tardivement, en 1547, deux ans avant sa mort, une anthologie de ses œuvres principales, de ses poèmes en deux tomes qui s'appelle « Les Marguerites de la Marguerite des princesses ». Un de ses écrits, un de ses poèmes, a été censuré par l'Église, le miroir de l'âme pécheresse. Il a fallu que François Ier intervienne pour qu'elle passe cette censure. Donc, vous voyez qu'elle était un peu en difficulté.
Elle était sulfureuse.
Elle était assez sulfureuse. Il y a des gens dans l'entourage du roi qui disaient, si vous pourchassez les hérétiques, finalement, la première personne, il faudrait regarder du côté de votre sœur. Voilà. C'était un petit peu dangereux aussi pour elle. Et puis aussi, pour une dame de son rang, ce n'était pas bien vu de faire commerce de ses œuvres. C'était très bien vu d'écrire, de faire circuler ses écrits, mais pas forcément de publier. Alors sinon, l'Heptaméron, ça a d'abord été des récits oraux qu'elle a créés à la cour comme une sorte de jeu de société auprès du futur Henri II, le dauphin Henri, de sa femme et de cet entourage-là, sa nièce Marguerite de France, après la publication du Décaméron en français. C'est elle qui a initier cette publication, cette traduction, cette nouvelle traduction plus fidèle du Décaméron. Et elle a eu l'idée de faire des nouvelles un petit peu dans ce mode-là, mais quand même plus moderne.
Dans votre livre, vous précisez que Marguerite de Navarre a écrit ses nouvelles en français. Ce n'était pas anodin pour l'époque, puisque la plupart des écrits qui circulaient étaient en latin.
Alors, le choix du latin, pour les humanistes, était tout à fait possible. C'est le choix que fait Erasme, qui écrit toute son œuvre en latin. Par contre, Marguerite de Navarre et son frère et leur mère s'échangent depuis tout jeune, depuis toujours, des rondeaux en français. Donc déjà, il y a une tradition poétique française dans la famille. Donc ça s'explique qu'elle choisisse le français. Elle n'a pas fait d'études de théologie, bien évidemment. Elle est dans le domaine de la langue vulgaire. Et politiquement, François Ier essaye de promouvoir la langue française.
Il y a eu les édits de Villers-Cotterêts quelques années auparavant. Donc, on doit écrire le français dans les textes officiels, disons.
Exactement, en 1539. Donc, ça fait partie de cette politique à la fois administrative, juridique et aussi de prestige, d'illustrer la langue française, la langue du roi, par rivalité avec l'Italie, qui avait fait la même chose avec le Toscan à partir du XIVe siècle, avec Boccace et Pétrarque.
Stéphane le disait dans son récit tout à l'heure, Marguerite de Navarre incluait des thèmes très érudits dans ses nouvelles, y compris les droits des femmes, c'était extrêmement avant-gardiste. Qu'est-ce qu'on peut trouver de féministe dans l'Heptaméron ?
Alors Marguerite est une très fine observatrice des mœurs de son temps et en particulier des brutalités masculines. Donc il y a énormément de nouvelles qui traitent de harcèlement, qui traitent de viol et qui décrivent tous les aspects de ces hommes qui ont tout pouvoir. Ils se mettent en colère et rien ne les arrête. Et donc on a le point de vue féminin de ces femmes qui se retrouvent enfermées, leur amant ou leur mari, alors même qu'elles sont majeures et que par exemple c'est un frère pour une sœur qui n'a aucun droit sur ses choix de vie, qui tue le mari et qui enferme la sœur dans une tour. Voilà. La même chose pour les filles. Et ce sont des histoires vraies. Hein, ce sont des histoires tirées, par exemple, là, il s'agit de la famille de Rohan. Il y a aussi des histoires qui lui sont arrivées à elle. La quatrième nouvelle est une histoire de tentative de viol contre sa personne, dans l'entourage de la cour, donc l'amiral de Bonnivet, qui fait partie de l'escorte de son frère, François Ier, a échangé la chambre avec sa mère pour se retrouver sous la chambre de Marguerite, par une trappe montée au milieu de la nuit, et essayer de la violer. Donc elle se défend de ses poings, de ses ongles, et le lendemain, elle veut reconnaître l'agresseur, comme ça elle a laissé des marques sur son visage, et elle demande à sa suivante ce qu'elle doit faire. Et sa suivante lui conseille de ne pas révéler l'histoire publiquement parce qu'il y a une question de déshonneur, que ça risque de lui retomber dessus. Et toutes ces histoires-là sont commentées par les voyageurs. Donc, vous avez différents points de vue. Vous avez un certain nombre d'hommes qui disent « Oui, bon, bah, les femmes, de toute façon, elles aiment bien un petit peu la brutalité, hein, façon OSS 117, on va dire. » Et puis, vous avez des femmes qui disent « Mais enfin, pas du tout, elle a fait ce qu'il fallait faire. » Alors, elle ne donne pas son nom dans cette nouvelle, mais c'est tout à fait transparent. Il y a beaucoup de nouvelles aussi qui parlent de son frère, qui parlent de leur père, etc. Donc, les noms sont masqués, mais les personnages sont identifiés. Et les lieux également sont très précis.
Quelle place elle occupe dans la littérature française? Parce qu'on l'a dit un peu, elle était la protectrice des arts et des écrivains et des artistes, mais elle a beaucoup aidé les artistes dans sa vie. Hein. Elle a été une femme de lettres à tous les sens du terme.
Alors, c'est un rôle classique pour une femme de son rang d'être mécène, déjà. Voilà. Mais elle a fait plus. C'est-à-dire qu'elle recevait des demandes de toute l'Europe, et en particulier du côté des réformés. Quand il y avait un humaniste brillant qui avait besoin de pousser plus loin ses études, donc en latin, grec et hébreu, hein, on comprend bien, donc ce n'est pas des jeunes étudiants, c'est des gens qui ont 20, 30 ans, eh bien elle finançait ses études, elle donnait des bourses. Elle a tout à fait acclamé la création du Collège de France par François Ier en 1530.
Mais merci beaucoup, Patricia Eichel-Lechkine, d'avoir été avec nous cet après-midi sur Europe 1 pour parler de Marguerite de Navarre et surtout réhabiliter le rôle qu'elle a eu dans l'histoire intellectuelle et politique de la Renaissance, aux côtés de son frère François Ier. Et puis, on laisse un peu sous silence son mari, mais enfin quand même, bon, elle a été reine de Navarre. Je rappelle votre livre, donc, Marguerite de Navarre, perle de la Renaissance, aux éditions Perrin. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires à vitesse grand V. Clémentine Portier-Kaltenbach. Oui, aujourd'hui Clémentine, de vitesse, il en est question, puisque vous nous racontez comment dans l'histoire on transmettait les nouvelles le plus vite possible, si possible.
Alors imaginez plutôt que vous soyez un roi, un empereur ou un pharaon, tous les deux. Évidemment, faire connaître vos ordres le plus rapidement possible est une impérieuse obligation. Vous disposez de toutes sortes de supports, tablettes d'argile ou de bois, papyrus, mais comment les faire parvenir à leur destinataire le plus vite possible. Bon, hein, y a pas 50 réponses, hein, à pied et à cheval. Et de préférence à cheval, en établissant des relais pour que votre envoyé puisse bénéficier d'une monture fraîche et repartir le plus vite possible. En 500 avant Jésus-Christ, le roi de Perse Cyrus, avant de partir en guerre contre les Scythes, avait fait établir ce genre de relais. Les Perses utilisent évidemment des oiseaux, aussi des hirondelles, dit-on pour les Perses, comme nous, plus tard, en Occident, on va utiliser des pigeons voyageurs. En Grèce, il existe des porteurs de courriers, on les appelle des hémérodromes. Le célèbre Philippides.
Ah oui,
hein, il était Philippides. Hémérodrome. Il était exactement hémérodrome. C'est celui qui, en 490 avant Jésus-Christ, aurait couru 42 kilomètres pour annoncer la victoire de Marathon. Alors, il court. Il y a plusieurs récits autour de cette histoire.
Du coup, le marathon fait
42 kilomètres. Alors, il court, et puis il arrive, il est absolument exténué. Et là, il a juste le temps de s'exclamer « Neni kekamen », ce qui signifie « Nous sommes victorieux ». Ah zut, hein. Ah mon vieux, on n'a pas le public qu'on mérite. Hein. Et il meurt d'épuisement, l'hémérodrome Philippides. Bon, alors, le premier véritable service de poste qui s'appelait le Cursus Publicus, il est créé à Rome par l'empereur Auguste. Et oui, parce que les voies romaines dans l'Empire romain, c'est vachement pratique pour les porter des messages. Et là, on crée des relais qui servent d'hôtellerie et de poste régional. Si c'est très urgent, avec des chevaux frais, on peut faire 140 km par jour. Je trouve ça stupéfiant.
C'est énorme, oui.
Hein, c'est étonnant, hein, à cheval, avec le Cursus Publicus d'Auguste, 140 km par jour. Bon, alors, malheureusement, ce système génial qu'avaient mis au point les Romains va complètement tomber en décrépitude avec la chute de l'Empire romain, hein, 5e siècle, et puis l'apparition de la féodalité, la décomposition de l'autorité politique. Bon, tout ça, tous ces relais, toute cette organisation régulière,
après,
elle disparaît.
Après, on est revenu au pigeon voyageur.
Ben, on revient. Non, c'est, si vous voulez, après c'est laissé à l'initiative privée, donc les seigneurs avaient des coureurs fieffés. Mmh. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est drôle parce qu'aujourd'hui, on lui donnait un fief contre la responsabilité de transmettre le courrier de génération en génération. Donc, en de nos jours, on dit donc, celui-là, c'est un fiefé coureur. En fait, c'est pas du tout. Le mot fiefé se rapporte à fief et au fait d'avoir eu pour tâche de transmettre les courriers, les nouvelles. Bon, et pour avoir des nouvelles fraîches, on compte surtout sur les marchands, les pèlerins, les troubadours, jusqu'à ce que Louis XI, et donc ça, c'est l'info à retenir, la création de la poste royale en France, c'est Louis XI en juillet 1464, et là des relais de poste vont fleurir un peu partout. Alors, dans le Petit Poucet de Charles Perrault, le Petit Poucet porte des bottes de 7 lieues de l'ogre. Pourquoi ?
7 lieues, c'est la distance qu'il y avait entre deux
relais de poste. Exactement, c'est la distance entre deux relais de poste, c'est-à-dire 28 km à peu près, et les postillons du mot poste qui n'étaient non pas assis sur la carriole,
debout, derrière.
Mais qui étaient debout, mettaient leurs jambes dans d'énormes bottes renforcées par du métal qui étaient fixées à la monture, et ça leur permettait de se maintenir et de protéger leurs jambes en cas de choc, de morsure ou de chute. Les bottes de 7 lieues. Alors après les bottes de 7 lieues, quand j'avais été au musée de la Poste, ça avait été l'occasion d'une autre révélation absolument importante. J'ai découvert à ce moment-là que l'expression « adada sur mon bidet » n'avait rien à voir avec un article de salle de bain, mais ça désignait le cheval qu'on utilisait dans les relais de poste. Ah, ce jour-là, je n'avais pas perdu ma journée. Hein. Mais en tout cas, la révolution de la vitesse en matière de transmission de nouvelles, eh ben, qu'est-ce que c'est ? C'est le télégraphe CHAP. C'était un appareil composé de 3 branches mues séparément, un genre de sémaphore, et qui pouvait former près de 9000 mots et transmettre un message de Lyon à Paris en 8 minutes par temps clair. Ça a été une véritable révolution. Hein. À Paris, il y en avait sur les hauteurs, les tours de Saint-Sulpice, Montmartre, le Mont-Valérien. Il n'en reste pas grand-chose, sinon une station de métro. À Paris, il y a une station de métro télégraphe. Quoi qu'il en soit, la première dépêche télégraphique historique parvint à Paris le 1er septembre 1794. C'était à la Convention. Carnot, monté à la tribune en pleine séance, annonçait la reprise de Condé aux Autrichiens le matin même. Un tonnerre d'applaudissements accueillit cette nouvelle qui inaugurait brillamment l'invention de Claude Schaff. Malheureusement, comme Claude Schaff n'a pas supporté les réserves que faisait Bonaparte sur les aléas climatiques auxquels était forcément soumis son invention, le malheureux Claude Schaff est allé mettre fin à ses jours en se jetant dans un puits. Oh, pourtant, lors des 100 jours, si Napoléon ne rencontre aucune opposition avant Laffray dans l'Isère, c'est parce que Louis XVIII n'est informé que le 5 mars du débarquement qui s'était produit 4 jours plus tôt à Golfe-Juan. Pendant tout ce temps, la dépêche avait été interrompue par le brouillard.
Bravo,
et merci. Ouais.
Ça nous laisse quoi ?
Je sens.
Bravo Clémentine. Ouais. Et voyez, vous devriez lire ces livres, Stéphane.
Oui,
vous apprendrez
une
quantité de choses.
Oui, ça c'est sûr.
Et vous seriez effectivement un peu plus brillant dans le quiz.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
À force de s'incliner parfois piteusement dans l'épreuve qu'il oppose chaque après-midi à Clémentine, Stéphane finit par en vouloir à la terre entière. Il ne supporte plus, par exemple, de regarder ses émissions télé où des candidats répondent juste à toutes les questions qu'on leur pose.
Ils n'ont pas de vie sexuelle ?
Si, ils ont juste une culture générale, Stéphane. Jouons à Bern to be alive. Première question, elle est pour vous. Parlons un peu de la peste. On passait souvent de la peste.
C'est vrai.
Pour commencer la semaine, je trouve ça plutôt sympathique. Au Moyen-Âge, pour combattre les épidémies à Londres, on avait une technique qui peut paraître curieuse aujourd'hui. On versait du sang sur le pas de la porte pour protéger les habitants des maisons. Vrai ou faux ?
Je suis pas sûr que ce soit du sang.
Tiens donc, laissez libre cours à vos souvenirs. Si c'était pas du sang, ça serait quoi?
Vous savez à quoi ça fait, à mon avis, ça fait penser à la Pâque, ou c'est un récit biblique, ça, quand on pourrait épargner son premier-né à la fois en Égypte avec Hérode, c'était du sang de mouton qu'on mettait sur les portes.
Non, je dirais non.
C'est pas vrai, ça.
Vous dites que c'est faux.
C'est faux.
Vous avez gagné.
C'est une bonne réponse, enfin, Stéphane. Effectivement, nous sommes à Londres, c'est quand même une ville assez chic. L'anglais ne mettrait pas du sang sur le pas de sa porte.
Non. Ça n'a pas toujours été chic.
Par contre, oui, on faisait quelque chose de presque plus étonnant encore. On ouvrait les fosses d'aisance de la ville de Londres pour vaincre la peste par les mauvaises odeurs. Source de cette info, le livre « Le miasme et la jonquille » d'Alain Corbin. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Parlons poil avec vous, Clémentine. C'est en 1831 que la garde royale britannique adopte les uniformes à tunique rouge avec le célèbre chapeau en poil d'ours. Voici ma question. Quand on est officier, c'est du poil de lapin noir, vrai ou faux ?
Écoutez, je ne pense pas. Je sais que comme les reconstituants de la garde impériale ont des accords avec des trappeurs canadiens pour se faire livrer tous les ans un certain nombre de peaux d'ours pour pouvoir réaliser des shakos. Je ne peux pas imaginer une minute que dans la garde impériale de Sa Majesté on utilise de la peau de lapin. Alors vraiment
du poil
pour le du poil de lapin. Question. Vraiment pour le menu fretin, mais pas pour des officiers. Donc je réponds faux.
Pas de poils de lapin. C'est une bonne réponse. C'est aussi du poil d'ours quand on est officier, mais du poil d'ours femelle.
Ah oui.
Non, femelle, Stéphane, pas synthétique. Ça, c'est vraiment si vous n'êtes pas officier. Femelle, ne me demandez pas la différence.
Du poil d'ours synthétique.
Je n'y connais rien en ours. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. 1953, gloire à Jonas Salk qui invente le vaccin contre la polio. En 1964, il devient obligatoire en France, ce vaccin. À l'époque, la confiance était de mise. Avec l'argent des vaccins, Jonas Salk a réussi à acquérir 7 tableaux de Picasso. Vrai ou faux ?
C'est faux, c'est ça. Il n'a pas voulu de brevet, il n'a pas déposé de brevet, il ne voulait pas faire d'argent sur un vaccin qui sauvait des enfants.
C'est une Picasso.
Mais non, c'est pas vrai,
ça. C'est pas possible.
C'est vrai que vous n'avez que 3, Stéphane. Mais
j'en
ça
ai
fait
aucun.
Beaucoup, 7.
Mais... J'ai une carte postale d'un tableau de Picasso. Non, je dis non.
Vous dites que c'est faux.
Vous avez gagné.
Et c'est une bonne réponse. Un peu aidé, il faut bien le dire, par Clémentine. J'aime bien vous donner les bonnes réponses.
Non, mais donc j'allais dire faux.
Et puis elle a,
Clémentine
elle a développé. Elle vous a donné
développé, c'est-à-dire
la
que
réponse,
le type, il a refusé de toucher de l'argent sur les vaccins,
oui.
Comme le ferait un monsieur Moderna ou monsieur Pfizer.
Exactement. Vous savez, vous savez ce qu'il a dit quand on lui a demandé pourquoi il avait refusé de breveter le vaccin ? Il a dit « Peut-on breveter le soleil ?»
C'est chic.
Pas mal, oui.
Et pourquoi Picasso ? Pourquoi des tableaux de Picasso ? Parce qu'il s'est marié avec Françoise Gillot qui avait vécu avec Picasso.
Donc il a eu les Picasso sans les payer.
Mais en effet,
on a un détail que j'ignorais aussi.
Ah, oui. Et voilà, je vous l'offre. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Philippe le Bel avait un fils aîné du nom, on en a parlé dans cette émission, de Louis X le Hutin, qui s'était marié avec Marguerite de Bourgogne, qui avait trompé son mari avec Philippe Daunet. Du coup, après la mort de sa première femme, Louis X se remarie avec Clémence de Hongrie, qu'on surnommait Clémence la Chance, car cette dernière lui souriait tout le temps. Vrai ou faux ?
Je n'ai jamais entendu dire ça. Pourtant, je suis une lectrice assidue et ancienne des Rois maudits. Que Clémence de Hongrie était surnommée.
Je note que vous aidez Stéphane, mais que Stéphane, lui, ne vous aide
mais
pas beaucoup.
Mais j'ai pas encore faut-il que je sois en état d'aider.
Louis X se remarie avec Clémence de Hongrie, qu'on surnommait Clémence la Chance, parce qu'elle
se souriait régulièrement. Absolument
non,
rien
alors,
du tout.
Je connais tous les surnoms de nos reines, mais j'ai jamais entendu Clémence
la Chance.
Moi non
plus, jamais, 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 jamais.
Donc vous répondez ?
Non, je réponds faux.
Vous avez gagné.
Bien joué, Clémentine. Ouais. C'est faux, elle était surnommée Clémence l'orpheline car ses parents sont morts de la peste quand elle avait 2 ans. Normalement, l'ambiance sera beaucoup moins triste ce soir à 21h05 sur France 3. C'est un secret d'histoire inédit consacré à Philippe le Bel et aux Templiers.
Aux Templiers, parce que mystère plane.
Bien sûr, le mystère demeure. Question numéro 5, elle va vous départager. Parlons du Dashua. C'est du chinois. Et c'est une façon comme une autre de célébrer le nouvel an lunaire dans ce pays. Ça fait 500 ans que le Dashua existe. À l'origine, c'était une fête pour remplacer les feux d'artifice car tous les villages n'avaient pas forcément les moyens de s'en offrir. En quoi consiste le Dashua ? On allume des pétards dans des crapauds, c'est rigolo. On met le feu aux livres qu'on a lu, c'est trop cool, ou on jette du fer fondu sur les murs de briques, c'est sympa.
3.
Stéphane Bern, qui présente Secret d'Histoire, nous dit donc que le dashua, cette ancestrale tradition chinoise, consiste à, quand on n'a pas assez de sous pour se payer des feux d'artifice, allumer des pétards dans des crapauds, c'est rigolo. Voilà, ça c'était votre réponse, Stéphane. Hein, n'oubliez pas que c'est quand même un quiz d'histoire.
Hein, c'est bien.
Voilà, voilà.
Les Chinois sont monstres.
Mais c'est peut-être ça.
Je vous laisse seul responsable non seulement de vos propos.
Non, mais ça ne
vous aurait pas surpris.
Ouais, il méprise vraiment la création et la nature. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais que c'était des crabes, une sorte de crapaud, vous voyez, des, comme on dit en crapoutine, vous voyez. C'est,
non, je ne vois pas du
tout.
C'est
des choses en...
Plus ça fonce, c'est de pire en pire. Vous êtes sous la table, Stéphane. Non, ce n'était pas la bonne réponse. Les Chinois n'allument pas des pétards dans des crapauds.
Eh bien, ils ont tort.
On jette du fer en fusion sur un mur de briques froid. Dit comme ça, ça ne fait pas rêver, mais ça fait de jolies étincelles.
Oui, oui, oui,
Dashua, ça veut dire battre des fleurs d'arbres. Et c'est vrai qu'on a l'impression de voir des arbres de feu pris dans une tempête. C'est sublime, fascinant, en pire lieu. Pour une fois, c'est la musique chinoise qui correspond vraiment à la Chine.
Et pour
c'est
une fois,
un
c'est
moment.
Clémentine.
Et pour une fois, c'est Clémentine qui l'emporte. Bravo Clémentine.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter, autour de trois personnages issus d'époques différentes mais unis par un point commun. Mathieu, vous écriviez des nouvelles quand vous étiez jeune ?
Je suis jeune, Stéphane.
Alors quand vous étiez vraiment jeune ?
Oui, m'est arrivé d'en écrire, je peux vous en parler d'ailleurs si ça vous intéresse. Certaines étaient assez bien tournées, par exemple une qui s'appelait Le Bus. Le Bus ? Lieu de rencontre exigu.
Bon, Mathieu, en fait, en vérité, on s'en fout. C'était juste histoire de rappeler notre thème du jour.
C'était même pas vrai, en fait.
En plus, c'est vrai ce que je viens de vous
dire. Ah ouais ? Oh putain !
Non, mais Stéphane s'en fout, visiblement.
Non.
Il s'en fout, mais d'accord.
Non, mais
alors,
ça,
allez-y.
Ça sera merveilleux, la machine à café. Donne-moi de tes nouvelles. Ils ont écrit de courtes histoires. Après Marguerite de Navarre, qui en a écrit beaucoup sans pouvoir aller au bout, parce qu'elle est morte, je vous raconte Edgar Allan Poe, le fantastique novelliste américain à l'œuvre qu'il était tout autant. Et puis,
et moi, vous m'oubliez, non. Stéphane, aujourd'hui.
Et puis, toujours adepte d'une certaine concision, mais plus proche de nous, Mathieu,
oui.
Vous nous brosserez le portrait d'un écrivain que vous adorez, et je l'aime aussi beaucoup.
Oui, Stéphane, il a escaladé des parois d'immeubles bourrées à la vodka. Il a traversé les steppes brûlantes de la Mongolie à cheval. Il a relié Moscou à Paris en sidecar soviétique. À côté de lui, j'ai l'impression d'avoir la vie d'un Playmobil qui ne connaîtrait du monde que la caisse à jouer où son propriétaire l'a rangé. Je vous parle de l'immense Sylvain Tesson.
Oui, vous avez raison, il est formidable. Mais avec nous, n'oublions pas nos célèbres chroniqueurs. David Castello-Lopez, qui remonte aux origines de ce que vous avez...
Dans les yeux.
Dans les yeux, enfin dans les yeux, par-dessus les yeux.
Par-dessus les yeux, c'est les lentilles de contact. Exactement.
Et puis c'est une chose assez... Je crois que c'est assez light, en fait,
c'est
pour une fois.
C'est très light, le tataki.
C'est le tataki,
ouais,
parce que les femmes prennent ça toujours, j'ai remarqué, en hors d'œuvre, en entrée.
C'est une manière de préparer de la viande ou du poisson, et ça a des origines japonaises, et peut-être même des origines... Oh, ah. À chaque fois...
Oh. Attendez, des origines quoi, là ?
On peut avoir une musique pour le moment.
Oui, mais vous savez, les Chinois ont racheté tous les restaurants japonais.
Ah oui.
Ah oui, c'est juste. Ça, oui, pardon.
C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont tenus par des japonais. Mais il y a encore à Paris quelques authentiques restaurants japonais tenus par des japonais qui savent faire des tataki dans les règles de l'art.
En tataki, c'est exactement comme ça que vont finir Pouls et Castello, une fois que je me serai occupé de leur cas dans la lutte finale, notre quiz fratricide de fin d'émission. Mais tout de suite, conte, histoire policière et nouvelles fantastiques. Il est un auteur qui, comme Stéphane Bern, a beaucoup écrit.
Louis Ier, Louis II, Louis III.
Oui, non, mais
Louis
pas tout à fait sur les mêmes sujets. Vous nous racontez votre alter ego américain, Stéphane. L'écrivain Edgar Allan Poe a la vie presque aussi noire que ses écrits.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Alors justement, des nouvelles, celui qui en a écrit des dizaines, cela fait des jours qu'il n'en a pas donné. Mais où diable est-il passé ? On ne s'évapore pas dans la nature comme ça. Nous sommes le 3 octobre 1849 à Baltimore, quand le créateur du roman policier est retrouvé gisant inconscient sur un trottoir. C'est un typographe du principal quotidien de la ville, le Baltimore Sun, qui le reconnaît. Cet homme à l'allure défroquée, c'est Edgar Allan Poe. L'auteur des histoires extraordinaires est conduit à l'hôpital où il passe 4 jours à délirer, dans le mauvais sens du terme, avant de ranger définitivement sa plume. Oui, de mourir quoi. Le certificat de décès fait état d'une congestion cérébrale un diagnostic un peu bancal. Mais que s'est-il passé ? La mort d'Edgar Poe a suscité des imaginations et donné lieu à des hypothèses en tout genre. Épilepsie, rage, empoisonnement. Aujourd'hui, on pense qu'il aurait été victime de cooping, une pratique qu'utilisent certains partisans politiques qui consiste à cibler des fêtards égarés et à les faire boire jusqu'à plus soif avant de les emmener voter pour la personne de leur choix, bien sûr. C'est pas très fair-play. Poe aurait ensuite fini dans le caniveau. Une fin de vie à l'image du sombre destin du poète maudit de l'Amérique. Né en janvier 1809 à Boston, Edgar Poe grandit à Richmond, dans une extrême pauvreté liée à la précarité du métier de ses parents comédiens. La situation empire lorsque son père se fait la malle, abandonnant sa femme et ses trois enfants. Comble du désespoir, Edgar, son frère et sa sœur se retrouvent ensuite orphelins en 1811. Cette même année, pour couronner le tout, le théâtre de la ville est détruit dans un incendie qui cause la mort de 73 personnes. Tant de malheurs émeuvent les habitants de Richmond. Les Allan, couple de riches négociants de tabac et de denrées coloniales, décident de prendre soin du petit Edgar. Rebaptisé Edgar Allan Poe, l'enfant reçoit une très bonne éducation et se passionne pour la natation. En 1826, il entame des études littéraires à l'université de Charlottesville. Physionomie, démarche, gestes, air de tête, tout le désignait, surtout dans ses bons jours, comme une créature d'élection, dira de lui Charles Baudelaire. Dans ses bons jours, oui, car des mauvais, Edgar en a souvent, et dès son adolescence. Son beau-père ne lui donne en rien, Poe s'adonne au jeu de cartes, s'endette et boit de l'alcool. En mars 1827, il quitte Richmond avec rien d'autre que son ambition. « Je suis jeune et je suis poète », écrit-il à ce moment-là. En parallèle d'une carrière militaire, il publie anonymement son premier recueil de poèmes, « Tamerlan » et autres poèmes. Après un passage en prison pour dette, en 1833, il écrit des contes qui sont remarqués par la presse qui décide de le publier. Poe a deux passions, l'écriture et Virginia, sa cousine germaine de 13 ans qu'il épouse alors qu'il a deux fois son âge. Le couple ne roule pas sur l'or. Difficile de gagner sa vie pour un auteur américain quand le marché est constitué à 90% de livres anglais. Poe se lance alors dans un autre exercice, la critique littéraire. Autant dire qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, loin de là. On le surnomme Tomahawk. Vous savez cette hache utilisée par les Indiens d'Amérique. S'il n'aime pas, il n'y va pas par quatre chemins pour l'exprimer, comme cette fois-ci. Nous n'épargnerons pas notre peine pour exposer pleinement au regard du public ces 443 pages d'idiotie avérée, de boursouflure et de vide. Bon, ça, c'est fait. Sa plume s'entend, c'est un coup près. Mais quand il veut publier, les maisons d'édition lui tournent le dos. Et pour cause, ses histoires sont trop courtes et trop sanglantes. Poe écrit alors un roman, le seul qu'il terminera, « Les aventures d'Arthur Gordon Pym ». À sa publication en 1838, vous imaginez bien que les critiques s'en sont données à cœur joie. Suite à cet échec éditorial, l'auteur, qui vit alors à Philadelphie, ne se laisse pas abattre et se venge à coups de plume. Il noircit des pages et des pages. En 1840, ses contes sont publiés sous le titre « Tales of Grotesque and Arabesque », traduit par « Histoire extraordinaire ». Mais lorsque sa femme contracte la tuberculose, il ne parvient pas à contenir son chagrin et le noie dans l'alcool. Même quand le président Tyler le reçoit pour faire plaisir à son fils qui en est fan, Edgar Poe se montre, je cite, « tout à fait insupportable et se donne en spectacle ». Sa réputation est au plus bas. Il fait ses valises et part pour New York avec 10 dollars en poche. En 1845, il frappe un grand coup en publiant un poème, désormais classique de la littérature américaine, Le Corbeau.
Bien sûr. Maître Corbeau sur un arbre perché.
Non, là vous confondez Mathieu, ça c'est Le Corbeau et le Renard. Et les fables de La Fontaine n'ont rien à voir avec les cruelles histoires d'Edgar Poe. Son corbeau, à lui, est perché au-dessus de la chambre du narrateur qui se lamente sur la mort de son amour. Et l'oiseau de malheur, un envoyé du démon, harcèle le pauvre homme en répétant un lugubre « jamais plus », le faisant plonger dans la folie. Il fait nuit, le décor est grinçant, l'ambiance est glaciale et il n'y a pas vraiment de morale. C'est ça le style de Poe. Avec ce poème, il se fait un nom en Amérique et en Angleterre. Si le succès est bien là, il ne le sauve pas. Quand Virginia meurt à 25 ans, Edgar Allan Poe trouve refuge dans l'alcool. Il ne buvait pas en gourmand, mais en barbare, à en croire Baudelaire. Poe ne boit pas pour le goût. Il le sait bien lorsqu'il écrit « Je devins fou », avec de longs intervalles d'une horrible lucidité. Lors de ses accès d'absolue inconscience, je buvais Dieu sait à quel rythme et en quelle quantité. Il va sans dire que mes ennemis rapportaient la folie à la boisson, et non pas la boisson à la folie. Autant dire qu'avec lui, la soirée s'achève seulement quand plus personne ne peut se relever. Et c'est à terre, justement, que l'écrivain américain est retrouvé à Baltimore en 1849, où il meurt à l'âge de 40 ans. Son succès en France, il le doit en grande partie à Charles Baudelaire, qui passera 17 ans de sa vie à traduire ses œuvres. Chaque année, le jour anniversaire de sa naissance, trois roses rouges sont déposées sur la tombe d'Edgar Allan Poe à Baltimore. Trois roses rouges, mais aussi et surtout une bouteille de cognac, pour que le plus célèbre des novellistes américains puisse s'enivrer pour l'éternité.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Edgar Allan Poe, j'aurais voulu qu'on ait les trompettes de la renommée. Nous sommes avec celui qui a traduit toute son œuvre, pas Baudelaire, l'autre. Bonjour Thierry Gilibeuf.
Bonjour.
Bonjour Thierry Gilibeuf, vous avez notamment traduit l'intégralité des nouvelles d'Edgar Allan Poe avec Christian Garcin pour les éditions Phébus. L'œuvre de Poe a été traduite une première fois, en premier lieu, si je puis dire, par Charles Baudelaire dès 1848 et pendant 17 ans. Sans Baudelaire, est-ce que la France n'aurait peut-être jamais connu l'Américain Edgar Poe ?
Alors, je pense que Poe aurait fini par être découvert en France, mais il n'aurait pas eu le retentissement. Enfin, il ne serait pas inscrit à ce point dans l'imaginaire collectif français. Parce que ça a été vraiment un formidable passeur.
Baudelaire et Poe, ils se sont connus comment ? Donc par la traduction ?
Voilà, oui, oui. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, à cette époque, il n'y avait aucun droit d'auteur. Ça interviendra à la fin du XIXe. Et donc, il y avait des adaptations très libres. Il y avait des écrivains français qui disaient ce qui se faisait dans la presse américaine, qui adaptaient, qui ne prenaient même pas la peine de citer l'auteur. Donc Poe a été comme ça. C'est des adaptations, les premières versions de Poe. Il y en a un qui a fait une première version, et il y en a un autre qui a fait la même version de la même histoire. Il y a eu on l'a accusé de plagiat. Alors il a dit, mais c'est pas du tout, c'est le premier qui a plagié un écrivain américain qui s'appelle Poe. C'est comme ça que le nom de Poe est traduit en France.
Proposer une autre traduction, comme vous le faites, c'est en changer l'écriture de certains mots, de certaines phrases. C'est quoi ? C'est pour rendre plus accessible, plus lisible aujourd'hui ?
Baudelaire fait quelques contresens. Il a traduit « habits », qui veut dire des coutumes, par des habits. Il a traduit « I feel for », il l'a traduit « I feel for you », ce qui veut dire « j'ai de la compassion pour toi ». Il l'a traduit mot à mot « je sens pour toi », ce qui veut rien dire. Donc il y a des petites erreurs. Et puis surtout, Baudelaire n'a traduit que les deux tiers. C'est déjà bien, mais il a traduit que les deux tiers des nouvelles. Avec Christian, l'idée, c'était de traduire l'intégralité des nouvelles de Poe avec un seul traducteur, en l'occurrence bicéphale, mais un seul traducteur.
Voilà, pour qu'il y ait une cohérence générale. Oui.
Voilà.
Et Edgar Allan Poe, il est surtout connu aujourd'hui, en France en tout cas, pour ses contes macabres et comme un maître de la nouvelle romantique et fantastique. Est-ce qu'on sait pourquoi il s'est tourné vers les formats courts ?
Déjà, il faut bien se rendre compte que la nouvelle est un genre très noble dans le monde anglo-saxon. Pardon. Il n'y a qu'en France où c'est vraiment un genre qui est complètement ou déprécié ou ignoré. C'est vraiment beaucoup d'écrivains ont leur lettre de noblesse en tant que novelliste. Je pense que c'est aussi pour des raisons pratiques, parce qu'il a besoin de gagner de l'argent et que les revues prenaient plus facilement des nouvelles que des romans.
On dit que c'est toujours plus difficile de faire court. C'est pas forcément plus simple.
C'est-à-dire dans un roman, on peut se permettre des moments de relâchement dans l'écriture ou dans la narration. Dans une nouvelle, ça doit tenir de façon très très dense et sans le relâchement n'est pas permis dans la nouvelle.
Faut pas qu'il y ait
de
gras, en fait.
Non, faut pas qu'il y ait de gras, voilà. Et puis il faut que la chute soit bonne. Donc c'est beaucoup plus difficile une nouvelle.
Dans la préface de votre traduction des nouvelles intégrales de Poe, et comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, vous écrivez qu'Edgar Allan Poe était aussi un critique littéraire féroce et impitoyable. Il était sévère avec la littérature de son temps. Est-ce qu'il était sévère avec ses propres écrits aussi ?
Non, pas.
Non, il s'aimait bien ?
Non, c'est pas qu'il s'aimait bien, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui avait une très haute idée de la littérature. C'était quelqu'un qui travaillait énormément et donc qui avait une exigence vis-à-vis de l'écriture. Il l'avait pour lui comme pour les autres. Je pense qu'il était conscient que quand il travaillait, il produisait quand même quelque chose qui valait le coup, quoi. Et puis, s'il était sévère à l'égard des autres écrits, c'est parce que c'était vraiment mauvais, quoi. C'était vraiment très mauvais.
Ah oui, mais a raison. Quoi.
Il était exigeant avec lui-même, j'imagine.
Oui, 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 il était exigeant avec lui-même.
Son poème Le Corbeau, je l'ai dit, a été. Ça a vraiment été une gifle à l'époque. C'est toujours un grand classique de la littérature américaine. Quelle est la particularité de ce poème, selon vous ?
Il y en a deux. Et la première, quand même, c'est quelque chose d'assez surprenant. Il faut savoir, c'est un poème qui paraît en journal et qui devient un succès, mais phénoménal. Quoi. Phénoménal. Du jour au lendemain, Poe devient le poète américain le plus célèbre de son temps. Et ce qui fait la qualité, bien, il le dit lui-même. Alors là, je pense qu'il se vante un petit peu parce que quand il a vu que le succès, il dit oui, mais c'est parce que j'ai travaillé, tout ça, c'était calculé, etc. Bon, il y a quand même une part d'inspiration derrière qu'il ne faut pas négliger. C'est très, très bien conçu sur le plan rythmique, sur le plan de la métrique, etc. Puis il y a une progression de la narration. Mmh. Au départ, on sent que c'est un homme qui est triste avec ce livre d'un antique savoir. On ne sait pas trop ce que c'est. Il est dans son... il y a un décor qui est planté. On voit quand même un décor typiquement à la peau avec... une demeure un peu triste, solitaire et tout ça. Et puis, il y a ce corbeau qui arrive, qui est quand même un animal, plutôt un animal de mauvais augure, on va dire comme ça, dans l'imaginaire, et puis qui se pose là sur le buste de Athéna, de Pallas, et puis et qui prononce ces mots-là, Nevermore, qui résonne avec le prénom de la disparue, Lénore. Donc, ça, ça, il y a un côté comme ça obsédant. Puis, oui, puis c'est noté. Aujourd'hui, on dirait que c'est un tube, en fait. Il y a un refrain, en fait, hein, ce Nevermore, ça, et ça monte en puissance comme ça. C'est pour ça que c'est, ça saisit. En plus, c'est favorable. Il y a un grand goût pour le fantastique allemand, le gothique anglais, donc ça correspond exactement au goût de l'époque.
Hein. On parle du corbeau. Poe, il a la réputation d'être ce côté poète maudit. Pourquoi il avait une telle prédisposition pour les histoires sombres et gothiques? C'est resté un auteur torturé toute sa vie?
Il y a trois raisons. La première, c'est ce qui marchait à l'époque. La deuxième, c'est comme ça marchait et qu'il trouvait que c'était très mauvais. Il s'amusait à faire des parodies, mais qui étaient tellement bien faites que ça devenait des chefs-d'œuvre. Et puis la troisième raison, c'est quand même quelqu'un qui a été marqué par la mort en permanence. Sa mère est morte à 25 ans. Son frère est mort à 24 ans aussi. Et sa femme est morte à 24-25 ans. Donc, il est son père qui disparaît mystérieusement. Donc, il est quand même marqué par quelque chose de très rude. Hein.
Justement, il ne buvait pas en gourmand, mais en barbare, disait Baudelaire à son sujet. Il entretenait un rapport très, très, très étroit avec la boisson. Il en avait besoin pour écrire
ou... Ah non, alors pas du tout. Alors ça, justement, alors je n'appartiens à aucune ligue de vertu ou de tempérance, hein, donc ce n'est pas pour défendre l'honneur de Poe, mais en fait, c'était quelqu'un qui ne supportait pas l'alcool. Donc au bout de 2-3 verres, il est rond comme une queue de pelle. Donc il explique qu'il lui est arrivé dans des soirées emportées par la cordialité du moment de boire plus que de raison. Il écrit à un ami, il dit « moi après il me faut des jours pour récupérer ». Donc pour écrire, c'est quelqu'un qui... Il faisait la distinction entre la fantaisie, en anglais la fancy, et puis l'imagination. Donc il avait besoin de toute sa lucidité pour écrire. Quoi. C'est quelqu'un qui est énormément nourri de littérature classique, de tout ce qui est relatif à l'actualité, donc tout ce qui est nouveauté. Il s'intéresse à toutes les découvertes scientifiques de son temps. Donc c'est quelqu'un qui a besoin, au contraire, d'être extrêmement lucide et sobre quand il écrit. Et son rapport à l'alcool, ben, je pense que Baudelaire a transposé un peu ses propres, ses propres penchants sur Poe. Et Georges Bernard Shaw a dit de Poe que dans toute sa vie, il avait bu à peu près autant qu'un Américain moyen en 6 mois.
Ah oui. Voilà. C'est bien de rétablir quelques vérités. Merci beaucoup Thierry Gilibeuf. Je rappelle vos traductions des nouvelles intégrales de Poe aux éditions Phébus. J'en profite pour signaler l'apparition de 2 nouvelles traductions, 2 romans de Poe, Les aventures d'Arthur Gordon Pym et celui qui reste inachevé, Le journal de Julius Rodman, en novembre prochain aux éditions Tristan.
Toujours avec Christian Garcin.
Toujours avec Christian Garcin, c'est bien de le citer. Et vous travaillez sur un livre sur Edgar Allan Poe et son grand rival, le révérend Griswold, qui sortira dans les prochains mois.
J'espère.
Ah oui, on vous le souhaite.
Une espèce de Salieri littéraire.
Ah, formidable. Voilà. Très bien.
Merci.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui nous ont donné des nouvelles. Après Edgar Allan Poe, Mathieu, vous nous brossez le portrait, à 99% vrai, d'un auteur de nouvelles plus proche de nous, l'écrivain aventurier Sylvain Tesson.
Chacun, Stéphane, a sa propre définition de l'aventure. Pour certains, il va s'agir de se balader avec un iPhone sans coque, faire un pique-nique sans gel hydroalcoolique. Pour d'autres, le frisson de l'excitation naîtra de la transgression d'un petit interdit, comme aller travailler avec 2 chaussettes dépareillées, ou, pour David, partir à la radio avec son slip de la veille, ce qui déjà lui offre une belle montée d'adrénaline. Mais d'autres, comme Sylvain Tesson, ont une conception plus exigeante de l'aventure. Ne pas changer de slip pendant plusieurs jours d'affilée n'est pas vraiment un problème pour cet écrivain baroudeur qui peut traverser l'Asie centrale à cheval pour rejoindre l'Inde depuis le Tibet à pied, des voyages au parfum d'expédition qu'il nous relate dans des nouvelles saluées par moi, mais aussi, ça compte, par le public et la critique. Des récits de voyage, bien sûr, mais portés par un style exceptionnel, conjuguant érudition et drôlerie. Sylvain Tesson voit le jour à Paris le 26 avril 1972. Petit coup de pouce du destin pour devenir un grand écrivain, son papa c'est le journaliste Philippe Tesson, fondateur du Quotidien de Paris, et sa maman c'est Marie-Claude Tesson, médecin et cofondatrice de la revue médicale Le Quotidien du Médecin. Bref, sur la table basse du salon chez les Tessons, c'était plus Télérama que Télé 2 semaines. Sylvain grandit à Chatou, en région parisienne, avec ses 2 sœurs. Adolescent, il n'a qu'une passion, une seule, la grimpette. Il grimpe aux arbres, sur les toits, aux façades des immeubles. À chaque fois qu'il est invité chez des copains, il rentre par la fenêtre en escaladant la façade de leur immeuble parce que passer par la porte, c'est bêtement bourgeois. Scolarité à Rueil-Malmaison, puis à Saint-Germain-en-Laye pour des études de lettres, avant de continuer en géographie à l'Institut français de géopolitique. Sylvain étouffe dans ce conformisme. Il rêve d'évasion. À 20 ans, il se lance dans sa première expédition. L'Islande à vélo. Mais l'Islande, voilà, c'est petit. Alors, en 93, il décide de faire le tour du monde à vélo, avec un pote. 50 crises hémorroïdaires plus tard, faut vraiment avoir une bonne peau de chamois quand on fait le tour du monde à vélo, le duo de choc repart, mais à pied. Un petit Saint-Jacques-de-Compostelle, Stéphane ? Non, il décide de traverser l'Himalaya. Oui, je vous rappelle, vous l'avez découvert avec moi, que c'est une partie de l'Himalaya et située en Chine, du moins selon la Chine, d'où ce sont. Petit regret néanmoins que personnellement j'aurais eu sur cette traversée de l'Himalaya à pied, le fait que l'application santé de l'iPhone n'existe pas encore. Te taper plusieurs centaines de kilomètres à pied sans recevoir de notification de félicitations et sans même compléter tes anneaux, perso, je ne vois pas l'intérêt. Sylvain, lui, visiblement oui, puisque dans la foulée de cette folle randonnée, alors que tout être humain normalement constitué se serait offert une petite semaine de repos au Castel Clara de Belle-Île-en-Mer, Tesson, lui, embraye sur une autre destination soleil qui l'excite, le Pakistan. Et puis, une fois qu'on est au Pakistan, eh ben, on est plus très loin. Oui, j'ai osé. Autant pousser jusqu'à l'Afghanistan. Afghanistan, évidemment. À chaque retour de voyage, Sylvain Tesson a cette élégance de n'imposer à ses amis ni soirée diapo, ni post Instagram. À la place, il évoque ses voyages et les sensations nées de ses voyages. Les nouvelles de Tesson s'arrachent. Hein. On a roulé sur la terre, la marche dans le ciel, la chevauchée des steppes. Le succès de ses ouvrages lui permet de financer de nouvelles expéditions. Après son Goncourt, il remporte aussi le prix Médicis Essai pour « Dans les forêts de Sibérie », dans lequel il relate son séjour dans une cabane au bord du lac Baïkal pendant 6 mois. Écoutez-le parler de ce qui, selon lui, fait toute la beauté du voyage. L'affût vous mène à une forme de modestie. Vous pensiez que la nature vous était donnée et elle recèle des chatoiements dont vous n'aviez pas idée. La patience est la vertu de l'affût. On s'installe dans la géographie au lieu de la parcourir. J'ai été amené à repenser mon usage du monde. Oui, je suis comme vous, j'ai pas tout compris, mais en gros, il aime la nature, quoi, le gars. Mais attention, si Sylvain Tesson est un grand voyageur audacieux, c'est aussi un dangereux stégophile.
Quelle horreur.
Non, dit comme ça, on a l'impression qu'il s'agit d'un truc sale et qu'il faut à tout prix l'éloigner des enfants. Non, Stéphane. Être stégophile, c'est avoir la manie de monter sur les toits. Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Reims, la Tour Eiffel ont longtemps été les terrains de jeu de Sylvain Tesson. Pour moi, les façades des immeubles étaient des parois, les rues des vallées, les toitures des plateaux et les aiguilles des églises des pics. Je finissais par voir les villes comme un massif. Il y avait une distorsion du regard. Ça fait une bonne vingtaine d'années que j'aurais dû m'écraser. Il y a une espèce de démon qui s'est épanoui en moi. C'est une escalade totalement adolescente, peu recommandable, plus proche de la roulette russe que de l'alpinisme. Ça me plaisait beaucoup de vivre tout le temps sur ce fil, jusqu'au jour où ça s'est mal terminé. Et oui Stéphane, car à force de jouer à la roulette russe, ce qui devait arriver arriva. Août 2014, Sylvain Tesson tente d'escalader à Chamonix la maison d'un ami, plutôt que de rejoindre ses potes, qui étaient tranquillement en train de s'envoyer un mont d'or à l'intérieur. Une mauvaise prise le fait basculer, la gouttière lâche, patatras. Circonstance aggravante, il expliquera quelques temps plus tard qu'il était au moment de la chute complètement rôti. La gueule de bois sera sévère, traumatisme crânien, un corps en miettes de multiples fractures. Tesson est placé en coma artificiel. Il se réveillera 8 jours plus tard, sans broncher. Quand on sait, Stéphane, votre réaction quand l'autre jour vous êtes coincé le doigt dans la photocopieuse.
Oui. Vite, une infirmière !
On se dit que décidément tous les hommes ne sont pas faits du même bois. En l'occurrence, non. Sylvain Tesson est un miraculé. Hein. Il garde des séquelles, notamment une surdité, une paralysie faciale. Mais il a retrouvé l'essentiel de sa mobilité et n'a rien perdu de son humour. Je le cite, « Ces 3 mois de repos, de sobriété, de silence, d'examen de moi-même ont été bénéfiques. Ma vie était un carnaval endiablé, légèrement suicidaire. Il était bon de ralentir un peu les chaudières intérieures, de descendre du train. Je conserve une paralysie de la face qui me donne un air de lieutenant prussien de 1870. Sacré Sylvain, toujours le mot pour rire. Même sa perte d'audition, il prend ça avec philosophie. Étant partisan du silence, que René Char appelait l'étui de la vérité, je ne m'en plains pas. En 2015, assez pantouflé, Stéphane Sylvain reprend la route pour un périple simple que je conseille à tout le monde, surtout les familles nombreuses, relier Paris à Moscou en sidecar russe sur les traces de la retraite des soldats napoléoniens. Ah oui, à l'hiver, bien sûr, hein, sinon c'est pas drôle l'été. Plus récemment, en 2019, on citera un autre très beau roman, La Panthère des Neiges, vous l'avez compris. Je suis fan de Sylvain Tesson, un écrivain qui aura su tracer son propre chemin, s'affranchir aussi des conseils pas toujours judicieux des éditeurs à ses débuts.
Une histoire avec des nazis, même fausse, c'est mieux qu'une histoire sans nazis, même vraie.
Pas de nazis dans les histoires de Sylvain Tesson. Ce que j'aime beaucoup cette petite phrase, je vous la donne. Elle résonne avec notre débat actuellement. La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Je vous laisse,
oui.
Je vous laisse y réfléchir.
C'est tellement vrai.
Dernier petit fun fact, de par ses écrits sur la mer, Sylvain Tesson est membre de l'Association des écrivains de la marine, ce qui lui donne automatiquement le grade de capitaine de frégate. Résultat, il a l'autorisation de monter à bord des bateaux de la Royale. Je vois, Stéphane, votre œil qui scintille à cette annonce. D'ailleurs, vous ne le dites pas par pudeur, mais vous préparez vous-même une expédition très audacieuse.
C'est comme si une bonne fée s'était penchée sur le berceau de cette croisière merveille de l'histoire et nous avait écoutés. On a dit, ben voilà, on aimerait commencer à Venise, et puis ensuite Trieste, et puis Split, et puis Dubrovnik. Et ça va se poursuivre par Corfou, évidemment.
Évidemment.
J'aime faire cette croisière merveille de l'histoire, surtout avec Luc Ferry et Dominique Roger.
Projet Luc Ferry, ça évidemment, ça donne envie, c'est très excitant. Stéphane, vous l'avez fait, cette croisière finalement ?
Je l'ai faite, oui.
Et c'était aventuré. Magnifique. Est-ce que vous avez pris des risques ?
Non, il n'y avait aucun risque.
C'était pas un voyage à la Sylvain Tesson.
Mais en tout cas, merci Mathieu, c'était un joli portrait de Sylvain Tesson.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour. Ils n'en prendront pas au mouage, ils sont habitués à faire court. Hein.
Oui, ce qui n'est pas le cas de nos chroniqueurs qui ont tendance à se répandre, notamment Castello qui entre maintenant dans le cœur de son papier vers 2 minutes 30, on a calculé 2 minutes 30, 3 minutes en moyenne après le début de sa chronique, mais on l'aime, ça n'a rien à voir. Simplement, comme on est censé diriger cette émission, on le signale. Olivier Pouls, vous nous parlerez du tataki aujourd'hui.
Oui, tataki, mais ça n'a rien à voir. On fait court, on fait bon, on fait simple, on fait japonais.
On fait japonais, mais tout de suite. L'origine des lentilles de contact. Vous en rêviez ? David Castello-Lopez l'a fait.
Moi, niveau beauté, je me mets 13 sur 20. Voilà,
Il y a
des gens, je pense, qui me mettraient 8. Mais quelques-uns, peut-être, me mettraient 16, voire peut-être même pour des gens particulièrement déviants, 17. Vous voyez, donc, je dis en moyenne 13. Voilà. Mais le problème, c'est que mon visage est en train de se dégrader. Et en particulier, toute la zone qu'il y a autour de mes yeux. J'ai de plus en plus de cernes et ça devient une des caractéristiques principales de mon visage. Je suis le mec avec les cernes. Et je sais déjà que si je vis assez longtemps, je finirai comme Philippe Séguin, dont le visage à la fin de sa vie était constitué principalement de cernes. J'assiste, si vous voulez, impuissant à la séguinisation de mon visage. Et il m'arrive d'essayer d'imaginer des solutions pour lutter contre cette séguinisation. Et je me suis dit que peut-être je pourrais porter des lentilles de contact d'une couleur très vive dans la perspective de détourner l'attention de ces replis disgracieux qui leur servent d'écrin. Je me suis renseigné, c'est possible. Je ne sais pas si c'est une bonne solution. En tout cas, ça m'aura au moins servi à faire l'introduction de cette chronique sur les origines des lentilles de contact. Donc c'est cool. Alors, depuis quand ça existe, les lentilles de contact ? Bon, à ma connaissance, il y a eu qu'un seul livre écrit sur l'histoire des lentilles de contact. C'est un opticien anglais qui l'a écrit il y a 10 ans. Et ce livre, il s'appelle Contact Lenses, The Story. Voilà, c'est comme ça, et il y va direct. Et dans ce livre, Timothy Bowden, l'opticien en question, il raconte que les premiers à avoir fabriqué des lentilles de contact, eh bien, ce sont les fabricants d'œil de verre, de yeux de verre, si vous voulez. Fabricants d'œil de verre, c'est un métier qui doit toujours exister aujourd'hui, mais qui, au 19e siècle, était beaucoup plus répandu. Pourquoi ? Eh bien, beaucoup plus de gens perdaient leurs yeux, non seulement à la guerre, mais aussi dans les accidents du travail. C'est-à-dire que porter des lunettes de production, c'était un petit peu facultatif, vous voyez. Donc, les gens perdaient leurs yeux, il fallait bien les remplacer, et donc il y avait des fabricants d'yeux de verre. Et un jour, à la fin du 19e siècle, il y a un docteur allemand qui s'appelait Theodor Samisch, qui devait traiter un patient qui avait eu un cancer de la paupière inférieure.
Ça existe, exactement.
Et qui ne pouvait plus bien fermer son œil, et c'était nul, parce que vous voyez, ça rendait son œil tout sec, tout ça. Et Théodore, il a appelé un de ses potes, deux potes à lui, qui étaient fabricants de yeux en verre. Il leur a demandé de fabriquer une demi-sphère en verre transparente pour protéger l'œil du patient. C'est ce qu'ils ont fait. Et cet objet, fabriqué donc en 1887, c'est considéré encore aujourd'hui comme la première lentille de contact au monde. Les lentilles en verre, elles se sont développées ensuite dans la première moitié du XXe siècle pour corriger la vision, mais elles étaient un peu nulles dans le sens où elles étaient vraiment très très grandes. Si vous voulez, elles allaient jusqu'à l'arrière de l'œil. Et donc, elles étouffaient l'œil.
Bah oui. et
on pouvait les porter que quelques heures, puis les enlever une heure, puis les reporter quelques heures.
Mais elles étaient en verre vert.
En verre vert de chez vert.
Mais vous imaginez, au moindre...
Alors j'imagine moins bien que vous, puisque vous vous emportez et moi pas.
C'est horrible, il faut que ça soit souple, les lentilles.
Ah, ah ben voilà, donc voilà, très, très grosse difficulté. Et puis, vers les années 40, on a inventé un plastique qui s'appelle l'hydroxyéthylméthacrylate. Très beau nom, les plastiques généralement, plus connu sous le nom de EMA, qui a permis de faire des lentilles de contact un peu mieux en plastique et aussi un petit peu plus petites. Mais tout ça, c'est quand même resté très discret, c'est-à-dire que les gens, ils portaient des lunettes plutôt que des lentilles. Tout ça jusqu'aux années 80, parce que dans les années 80, on a inventé les lentilles jetables qui ont rendu l'expérience plus gérable au quotidien pour tout le monde et qui ont surtout permis aux lentilles de contact de devenir des produits de masse. Le monsieur qui a inventé le principe des lentilles jetables, il est mort riche, mais riche de sa race, quoi. Et aujourd'hui, les quatre entreprises qui se partagent le marché dans le monde, elles vendent des milliards de dollars de lentilles par an, y compris à vous d'ailleurs. Les lentilles de contact de couleur, elles existent depuis à peu près la même époque, les années 80. Et je me souviens très bien, je terminerai par ça, je me souviens très bien d'une des premières fois où j'en ai vu. J'avais 19 ans, j'étais avec mon père à un déjeuner avec des gens qu'on connaissait pas très bien, même pas du tout d'ailleurs pour une d'entre elles. Il y avait une dame à table qui avait les yeux violets, mais genre violet de chez violet pétant, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai compris tout de suite que c'était pas possible d'avoir des yeux de cette couleur, et donc elle avait probablement des lentilles dans les yeux, mais mon père, lui, il n'a pas compris. Et il a dit à la fille de façon hyper sincère et séductrice: vous aviez des yeux incroyables. Ah, je n'en ai jamais vu d'une couleur pareille. Et je voyais la fille gênée comme ça, mais oui, merci beaucoup. Et moi aussi, j'étais affreusement gêné. Et finalement, elle a fini par lui avouer que c'était des lentilles. Et j'ai eu l'impression que mon père se sentait un peu trahi. Vous voyez, c'était, mais comment ça on peut changer la couleur de ses yeux? C'est quoi? On vit dans une époque quand même, c'est pas possible, quoi. Et oui, c'était une autre époque.
Eh oui. Mais merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube et Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre.
C'est bon, Olivier, vous êtes remis de vos émotions.
Oui, ça
on
va
parle
aller, hein.
Plus de lentilles.
Non, non, merci, David. Si je devais commencer ma chronique comme David, j'irais. Bah, vous savez, moi, j'aime bien le restaurant japonais, c'est cool. Les Japonais, ils cuisinent bien. Et j'aime bien les sushis.
Oui.
Et alors, quand je vais au restaurant japonais, parfois j'en ai marre de manger des sushis, alors j'essaie de manger autre chose.
Oui. T'aurais dit ça. Hein,
et comme donc ouais, là, je me retourne vers le tataki. Mais qu'est-ce donc le tataki?
Et, ça vient,
et du coup, ça m'a donné envie de savoir.
Il y a un jour, un mec qui s'est dit, tiens, on va faire un tataki. Ben, pas tout à fait. En tout cas, c'est une méthode de préparation de viande ou de poisson qui nous vient effectivement du Japon, plus précisément de la province de Tosa.
Et c'est où Tosa?
C'est pas très loin.
Il n'en a aucune idée.
C'est Nagasaki.
Ah, voilà.
Nagasaki dans le sud.
Voilà, exactement.
Là, je visualise.
Voilà, et Sakamoto Ryoma, qui était un samouraï au 19e siècle, a développé cette technique qui consiste à mêler la cuisson, la flamme et la marinade. Et de qui se serait-il inspiré, mon cher David?
Des Portugais.
Exactement.
Ils sont allés jusqu'au
de
Japon.
De jésuites portugais qui étaient installés à Nagasaki et qui avaient ce type de cuisson, a priori. Et donc, en réalité, quelque part, le tataki
est portugais.
Portugais.
Le tataki est os.
Alors, ça, en fait, ça signifie en japonais piler. Et ça fait référence au gingembre, qui est un des ingrédients qu'on utilise dans le tataki et qui est pilé dans la recette. Puisqu'en fait, pour faire un bon tataki, il faut donc combiner deux choses, de la marinade et de la cuisson. L'idée étant d'avoir un jeu de textures cuit à l'extérieur, cru à l'intérieur, mais avec des saveurs qui sont apportées par la marinade. On peut utiliser cette technique d'élaboration des mets pour plusieurs produits. Alors, le grand classique, c'est évidemment le thon.
Le thon.
Le problème du thon, c'est que c'est un poisson qui est plutôt menacé. En tout cas, sur les 7 espèces de thon qu'on voit couramment dans nos océans, il y en a au moins 4 qui sont menacées. Donc, on peut faire du tataki de thon, mais pas souvent. Et en tout cas, on choisit des espèces qui sont moins menacées que d'autres. Mais sinon, on peut le faire avec du saumon, avec du bœuf ou même avec du veau. Ça marche extrêmement bien. Alors, je vais vous donner la recette de base du tataki que vous allez pouvoir appliquer à tous les ingrédients, tous les produits dont on a parlé maintenant. Ça marche extrêmement bien. Alors, il faut donc un filet de thon, de bœuf ou de saumon, un joli morceau de filet, de la sauce soja, du jus de citron vert, de l'huile de sésame, du gingembre haché, donc bien pilé, une cuillère à soupe de sucre, et puis des graines de sésame que vous allez torréfiez vous-même. Alors ça, c'est pas compliqué. Prenez les graines de sésame, prenez une poêle, faites chauffer la poêle. Vous les mettez dedans à sec. Dès qu'il y a une petite coloration qui se fait, vous arrêtez et vous avez torréfié vos graines de sésame. Alors vous allez tout d'abord réaliser une marinade avec tous ces ingrédients, donc soja, citron, huile de sésame, le gingembre, le sucre. Vous prenez votre viande ou votre poisson que vous allez mariner dedans pendant au moins une ou deux heures pour que ça s'imprègne bien. Et ensuite, on fait vraiment une cuisson très rapide, une cuisson flash dans une poêle extrêmement chaude avec un tout petit peu de matière grasse pour marquer. Alors c'est 30 secondes. On a bien marqué.
C'est pas 30 secondes. Hein.
Bah, un petit peu plus
c'est
longtemps.
On le fait en direct. Ah, 30 secondes par côté.
30 secondes par côté. Une fois que c'est bien marqué de tous les côtés, vous sortez. L'intérieur est resté cru, bien évidemment. Vous en taillez de fines tranches. Vous récupérez votre marinade et vous allez arroser votre ataki, enfin vos morceaux de viande, avec cette marinade. Et par-dessus, on vient saupoudrer avec des petites graines de sésame torréfiées. Voilà, ça c'est la recette du tataki portugais.
Le tatakos. C'est une recette signée Olivier Pouls. Merci Olivier, on retrouve toutes ces recettes sur le site d'Europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane, le grand moment est venu, oui. Ce moment de l'affrontement entre vos meilleurs éléments. Ouais, en tout cas, nous quoi.
Alors, c'est une bataille entre Olivier, Mathieu et David. Pour une fois, je suis à la bonne place, au-dessus des parties. Une question pour chacun et une pour tous en cas d'égalité. Olivier, le 21 août 1968, c'est la dramatique invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques. Dans un geste de désespoir, la population enlève les plaques des rues et les panneaux indiquant la direction à prendre pour se rendre dans certaines villes afin de ralentir l'avance de l'envahisseur. C'est vrai ou c'est faux ?
Oh, c'est possible, il n'y avait pas de GPS à l'époque, donc ils avaient des cartes, ils pouvaient peut-être éventuellement regarder les panneaux. Si vous retournez le panneau, ils peuvent partir du mauvais côté. Ce serait assez bien vu, hein. J'aime bien l'idée, je trouve que ce serait... Mais je pense que c'est faux.
Ah bon ?
Oui. Bah,
pour une fois que t'allais avoir bon.
Oh ouais. Mais je...
ouais. Tu as trop raisonné, mais t'allais
non,
trop loin.
Non, c'est sa tête en fait, parce que j'ai.
Oui, on essaie de le lire. Elle ne jouait jamais au poker avec lui, il est illisible.
Et j'ai lu sa tête et en fait j'étais sûr de mon raisonnement et il faisait ouais, l'air de dire t'es sûr.
Mais non, mais en fait j'exprime tout et son contraire.
Oui, vous êtes terrifiant. Oui. Jamais joué aux cartes avec vous.
Alors.
Mais c'était vrai.
C'était vrai, et d'ailleurs même certains manifestants se sont fait tirer dessus par les envahisseurs.
Mon raisonnement était parfait.
Parfait.
Ça mériterait un point quand même. Ouais.
Non. David, 1920 en Namibie, on découvre la plus grosse météorite de toute l'histoire de la météorite. Fait étonnant, elle n'a pas laissé de cratère. Vrai ou faux ?
Faux.
Non, elle est tombée dans l'eau.
Bien vu.
Bon, allez, j'ai gagné.
Non, on ne peut pas s'attribuer les points.
Elle pèse 60 tonnes. Seule explication possible, quand elle est tombée dans la mer à l'époque.
Ouais, bravo.
Ça, c'est vraiment des questions à la...
Là, franchement, je m'incline devant Mathieu Noël.
Mathieu. En 1965, un brevet américain a été déposé. Deux scientifiques ont inventé une machine pour aider les femmes à accoucher. On installe la future maman sur une table qui tourne à grande vitesse. Il y a même un filet de sécurité tout autour. Au cas où le bébé sortirait plus rapidement que prévu.
Non, mais c'est quoi ce...
C'est vrai ou c'est faux ?
Non, c'est pas possible. On est en quelle année ?
En 65.
En 65, c'est...
C'est une table comme ça qui tourne à grande vitesse.
C'est pas une réponse.
Il y a un filet de sécurité comme ça, hop, on jette le bébé là-dedans.
C'est pas que c'est faux, c'est que ça ne peut pas être vrai.
Oui, d'accord.
Mais quoi ? Non, c'est impossible.
C'est vrai. Cette machine a été inventée par George and Charlotte Blonsky. Mais en fait, personne ne l'a jamais essayé.
Donc voilà, ce n'est pas une machine. Une réclamation, excusez-moi, ça n'a pas de sens.
Elle a été inventée, non.
Le non, il n'y a pas de réclamation.
Il y a pas de gagnant.
Je peux inventer une catapulte à saucisson que personne n'utiliserait pour s'envoyer du saucisson entre nous. Voilà, je l'ai inventé.
La machine existe et c'est tout ce que je veux. Alors, je vous propose maintenant la question qui départage. Je rappelle que la réponse la plus proche remporte la lutte finale.
Oui.
Le 25 avril 2015, un séisme touche le Népal. Du coup, le mont Everest a perdu de sa hauteur. Mais de combien de centimètres ? Voilà.
Il est redescendu d'un coup, quoi. Crac.
30 centimètres.
Craqué.
20 mètres.
Un gros séisme, hein, du bon séisme. Hein. Ouais. Alors peut-être, 2,50
m. 2,50 m.
30 cm, 20 mètres.
Et 20 mètres.
Non mais vous avez vu ma fiche.
Qui, moi? J'ai gagné?
Oui.
Mais non, j'ai pas vu votre fiche. Vous êtes de l'autre côté des écrans. Pourquoi?
C'est 2,50
m. C'est 2,50
m.
Alors là, attendez, il faut faire un truc spécial. Oh. Là, j'ai droit à 10 points. Ou un truc qui me place un peu devant quand même là, dans la compétition. C'est énorme, Stéphane.
Mais oui, je sais.
Mais jouissez-vous pour moi. On dirait que vous êtes triste que j'ai gagné.
Non, je suis très heureux. C'est tellement inhabituel.
Il est en train de mourir, David. Ah non, vous éternuez, pardon. J'ai cru que vous pleuriez dans votre gardardine.
Mais je pleure aussi.
Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève déjà, diront certains. C'est pas trop tôt, diront nos personnages du jour, Stéphane, qui avait l'habitude de faire court.
C'est vrai, Mathieu. On est en retard, alors nous aussi, on va faire court. Hein. On se retrouve demain, on remet le couvert.
Comme vous y allez, Stéphane.
Non, en fait, c'est le thème de notre émission. Ils ont remis le couvert. On réunit ceux qui se sont séparés, puis réunis à nouveau. Frida Kahlo et Diego Rivera, Elizabeth Taylor et Richard Burton.
Et le couple dont on a parlé tout l'été, Jennifer Lopez et Ben Affleck, qui sont retombés amoureux 17 ans après s'être quittés. Vous pensez que David avec Constance, peut-être, sur un malentendu, je lance l'idée pour vous David, on croise les doigts.
Mais enfin, on ne peut pas remettre un couvert qu'on n'a jamais mis.
Bon, vous avez cassé mon rêve Stéphane, mais à demain quand même.
À demain Mathieu.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.